Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Mes très chers frères, dans l'office divin, un verset et un répond nous font demander à notre Seigneur Jésus-Christ, cela même que les pèlerins d'Emmaüs lui dirent quand il sembla vouloir poursuivre son chemin. Restez avec nous, car le soir descend. Mane nobiscum conan ad vesperachit. Nous avons vécu jusqu'à présent à la lumière du cierge pascal depuis la résurrection. Depuis la vigile pascale, le cierge s'est allumé et nous avons vécu chaque messe avec à la lumière de ce cierge pascal. Liturgiquement, il nous a illuminés, lui qui représente la colonne de feu qui éclairait nos pères dans le désert. Il nous a attendus au sein de cette église, tandis que nous, nous irions au dehors, c'est lui qui nous a attirés dans cette église, c'est lui qui nous a attirés dans son église et qui nous y a illuminés de sa lumière surnaturelle. Il n'a pas cessé de briller pour nous, il n'a pas cessé d'être présent pour y être notre lumière. Il est la voie, la vérité et la vie, il n'y a de salut qu'en lui, et en dehors de lui, en dehors de l'église, il n'y a pas de salut. Il nous quittera bientôt, puisque cette semaine, aujourd'hui, c'est le cinquième dimanche après Pâques, et il se trouve que jeudi prochain, ce sera la fête de l'ascension de notre Seigneur. Notre Seigneur remontera au ciel, et liturgiquement, nous éteindrons ce cierge pascal, et nous n'aurons plus sa lumière jusqu'à la fin de l'année. Notre Seigneur remontera au ciel, il va bientôt nous quitter pour rentrer, réintégrer le ciel d'où il est venu pour notre salut. Et c'est pour ça que l'Église, aujourd'hui, nous dispense un enseignement fondamental sans lequel, eh bien, nous ne pourrons manquer de retomber dans les ténèbres qui sont les nôtres par nature, qui sont les nôtres par la chute et qui sont les nôtres si nous nous détournons de la lumière qu'est le Christ. Nous avons plusieurs choses à voir aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit. Tout d'abord, d'après Saint Jacques, comment il nous faut écouter la parole de Dieu. Et nous verrons aussi certaines erreurs au sujet de l'écoute de la parole de Dieu. Nous verrons aussi pourquoi il faut pratiquer la parole de Dieu, et c'est cela que nous enseigne l'Église spécialement aujourd'hui. Ensuite, nous verrons comment profiter de la parole de Dieu. Nous verrons comment nous adresser à Dieu. Nous devons nous adresser à Dieu pour recevoir de lui les grâces dont nous avons besoin. Et enfin, nous terminerons en considérant en quoi consiste la pratique de la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Les textes de la messe d'aujourd'hui sont très clair. La lecture de l'épître de Saint Jacques nous a enseigné des choses qui sont d'une telle clarté, d'une telle simplicité que d'une certaine manière nous n'aurions pas besoin de commentaires, mais néanmoins c'est le rôle de l'Église que de nous expliquer. Et bien souvent il y a des choses que nous croyons comprendre parce qu'elles sont très simples, que nous ne comprenons pas dans toute leur étendue. C'est pour cela que, et encore une fois, l'Église est là pour nous enseigner. Écoutez ce que dit Saint Jacques. « Mes bien-aimés, mettez en pratique la parole de Dieu » et ne vous contentez pas de l'écouter en vous leurrant vous-même. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Il se regarde, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Mais celui qui considère attentivement la loi parfaite, qui est la loi de la liberté, et qui s'y attache, n'écoutant pas pour oublier, mais passant à l'œuvre, celui-là trouvera son bonheur dans ce qu'il fait. Carissimi est sauté factores verbi et non auditores tantum. Ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais soyez des gens qui mettent en pratique. Nous n'avons été, mes très chers frères, nous n'avons été rachetés que pour la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas vivre à l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que ne pas vivre à son imitation, c'est marcher sur le sang du Christ, pour reprendre les paroles de l'Écriture même. C'est cela en quoi consiste l'ingratitude. L'ingratitude consiste à se comporter, nous chrétiens, comme si nous n'étions pas chrétiens. Il y a un autre degré d'ingratitude qui consiste à nous comporter en chrétien, c'est-à-dire en chrétien revendiqué, mais sans nous conformer à ce que l'Écriture nous enseigne de la manière dont doivent se comporter les chrétiens. C'est un degré plus subtil d'ingratitude, mais c'est une ingratitude qui est encore plus grave. Il y a des gens qui sont baptisés et qui crachent sur leur baptême car ils n'en perçoivent pas la valeur. Il y a des gens qui sont baptisés, qui en sont fiers, et qui, d'une certaine manière, tout en faisant profession du christianisme, eh bien, se détournent l'oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu. Et c'est pour cela que les proverbes nous disent que leur prière même est en abomination au Seigneur. La gratitude consiste à faire bon usage de la grâce. Comme nous le disons assez fréquemment, dans gratitude, il y a grâce. Être ingrat, c'est mésuser des grâces que Dieu nous donne. Être dans la gratitude, être reconnaissant, c'est-à-dire pratiquer la gratitude, consiste donc à faire bon usage de la grâce qui nous est donnée, sachant que cette grâce est à notre organisme spirituel, à notre organisme de régénéré, ce que la sève est au sarment. Sans la sève qui vient du cep, il ne peut porter de fruits. Sans la grâce, nous ne pouvons porter de fruits. Encore faut-il la mettre à profit avec la charité, par la charité. La gratitude consiste donc à faire bon usage de la grâce. C'est pour cela que Saint Jacques, ici, oppose factores à auditores. C'est-à-dire, il oppose ceux qui font à ceux qui écoutent seulement. Comment ferions-nous si nous nous contentons, si nous n'écoutons pas? Évidemment, il faut écouter. Donc tous les chrétiens qui sont tant soit peu pieux, disons, c'est-à-dire qui vont à la messe le dimanche, entendre la parole de Dieu. Ils l'écoutent, ils l'entendent, mais combien la mettent en pratique? Il y a là donc une sorte d'égalité entre les chrétiens, ils ont des oreilles la plupart du temps, par la grâce de Dieu, donc ils écoutent la parole de Dieu, mais peu d'entre eux sont des factores, sont des gens qui mettent en pratique la parole de Dieu. Il y a même une sorte de curiosité, en quelque sorte, dans l'original, puisqu'il est dit « estote factores verbi »,« estote soyez factores verbi ». Alors, littéralement, des gens qui font la parole, donc parole qui écoute. Mais en réalité, factores verbi, on pourrait même le prendre au sens de verbe, au sens de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, soyez les facteurs de notre Seigneur, c'est-à-dire soyez ceux qui mettent en pratique l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez la parole de Dieu, ce n'est pas simplement recevoir des bonnes idées pour les mettre en pratique à un certain niveau. Écoutez la parole de Dieu, même s'il y a plein d'applications et même des applications très lointaines qui découlent de la parole de Dieu et qui sont des choses qui sont bonnes pour nous dans le temporel. Néanmoins, écouter la parole de Dieu, c'est avant tout et fondamentalement être imitateur de notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, c'est être inspiré par la parole de Dieu, au sens le plus vulgaire du terme, c'est être intéressé par la parole de Dieu, c'est être, encore une fois, dans une sorte de récupération de la parole de Dieu, mais ce n'est pas mettre en pratique le Verbe de Dieu lui-même, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est né, qui est mort et qui est ressuscité pour notre salut et notre justification. Ne soyez pas donc tant des auditeurs seulement que des gens qui mettent en pratique la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit, que Saint-Jacques dit, si nous ne faisons qu'écouter, auditores tantum, si nous ne faisons qu'écouter la parole de Dieu, nous nous trompons nous-mêmes. Phalantes nos metipsos. Nous nous trompons nous-mêmes. Dans le grec, il est dit, nous nous trompons par de faux raisonnements. Il y aurait bien des choses à dire ici, mes très chers frères, mais il faut aller plus loin. Et donc, je pense que vous avez compris qu'il ne faut pas écouter seulement la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique, sinon nous nous trompons nous-mêmes. Un amour oisif et infructueux de la parole de Dieu, nous dit un auteur, est un amour faux et trompeur. On peut aimer la parole de Dieu. Bien des chrétiens la détestent, bien des chrétiens la méprisent, qui sont de type martionniste. Mais bien des chrétiens aussi font profession, enfin quelques chrétiens font profession de l'aimer, mais ils l'aiment pour sa valeur, je ne parle pas de la valeur littéraire, etc., mais ils l'aiment pour sa valeur, que sais-je, politique, pour sa valeur philosophique, pour sa valeur religieuse, tout. Pourquoi pas? C'est vrai que tout ceci est dans l'Écriture. Mais ils ne l'aiment pas, ils l'aiment d'un amour qui est faux et trompeur, c'est-à-dire d'un amour qui est oisif et infructueux. Oisif, ici, consiste à aimer la parole de Dieu, éventuellement la méditer, à être passionné d'exégèse, à être que sais-je, mais ne pas la mettre en pratique. Et nous verrons un peu plus tard ce que signifie mettre en pratique la parole de Dieu d'une façon plus concrète. Nous nous trompons nous-mêmes comme le serpent a trompé notre première mère Ève. Nous nous trompons nous-mêmes en nous persuadant que nous écoutons la parole de Dieu et nous l'écoutons avec amour, mais comme nous ne la mettons pas en pratique, eh bien nous nous trompons nous-mêmes, nous nous leurrons nous-mêmes, nous sommes à nous-mêmes ce que le serpent a été à Sainte Ève. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique, dit Saint Jacques, ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. La parole de Dieu, mes très chers frères, est donc semblable à un miroir. Et pourquoi nous regardons-nous dans un miroir? Alors évidemment, le vaniteux va se regarder dans un miroir pour se flatter d'être très beau, d'être très agréable à voir, et il va être le premier à bénéficier de son image. C'est là la caricature même de la vanité. Mais pourquoi regardons-nous, pourquoi des gens qui ne sont pas vaniteux se regardent dans un miroir parfois? Eh bien, c'est pour voir s'il n'y a rien de choquant sur leur visage. Il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de tache, il n'y a pas de choses qui les rendraient odieux à leur prochain. Eh bien, c'est ainsi qu'il faut user, mes très chers frères, du miroir de la parole de Dieu. Le miroir de la parole de Dieu, nous devons en user pour, en le scrutant, nous voir dans tous nos défauts. Il faut nous regarder dans ce miroir de la parole de Dieu, car ce miroir nous révèle toutes nos imperfections. Toutes les taches qui sont sur le vêtement nuptial que nous avons reçu à notre baptême, toutes les imperfections, les grandes et les petites, des fois il y a des taches qui sont tellement énormes que nous ne pouvons pas ne pas les manquer, et puis il y en a d'autres qui sont très petites et il nous faut être très attentifs. Mais toujours est-il que ce sont toujours des taches, et que la parole de Dieu est un miroir dans lequel nous voyons nos taches. Alors comment la parole de Dieu nous révèle-t-elle nos imperfections? Ce n'est pas que la parole de Dieu est une sorte de chose qui nous renvoie à nous-mêmes en tant qu'individus. La parole de Dieu nous renvoie à ce que nous devons être, à notre vrai moi, à ce que nous sommes véritablement par le baptême. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne parle que du Christ, puisque la parole de Dieu, c'est le nom même, c'est un des noms mêmes de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu, le Verbe de Dieu fait chair. Donc la parole de Dieu, en ne nous parlant que de notre Seigneur Jésus-Christ, de ses qualités, de ses perfections, de tout ce qu'il a subi pour notre salut, et de tout ce qui le représente, nous montre tel que nous sommes par rapport à lui, c'est-à-dire ses bourreaux, ou alors tel que nous sommes en lui, c'est-à-dire tel que nous sommes si peu, tel que nous sommes actuellement. Disons-le, en tout cas, je parle pour moi, mais je pense que nous tous serons quand même à divers degrés concernés par la réalité de ce que nous venons de dire. Donc la parole de Dieu, c'est ce miroir qui nous montre moins nous-mêmes, pour nous faire, en quelque sorte, nous aimer ou nous détester nous-mêmes, mais elle nous montre ce que nous sommes vraiment dans le Christ, de telle sorte que nous nous voyons ou que nous ne nous voyons pas tels que nous devons être. Les maximes de l'Évangile sont le canon, constituent le canon de la beauté que Dieu veut trouver en nous, veut trouver dans ceux qu'il a rachetés par le sang de son Fils à sa propre justice. Lorsqu'un roi, lorsqu'un maître, lorsqu'un roi achète des esclaves, ou lorsqu'un roi, disons, fait employer des serviteurs, il veut qu'ils soient revêtus, qu'ils soient instruits des règles de la maison, et qu'ils soient revêtus de sa livrée. Lorsqu'il sait que, je ne sais pas moi, tel ou tel corps d'armée, ou tel corps de serviteurs a été renouvelé, et qu'ils ont été formés, eh bien, il va visiter les serviteurs, le régiment, que sais-je, et il veut que tout soit conforme à sa volonté. Il veut que les uniformes soient bien propres, bien repassés, bien portés. Il ne veut pas qu'il y ait de désordre dans ses serviteurs. Il ne veut pas qu'il y ait des serviteurs qui rendent méprisable sa maison, donc son nom. Notre Seigneur, au dernier jour, lorsqu'il viendra visiter la salle de noces, eh bien, notre Seigneur vérifiera si le vêtement qu'il nous a fait donner par ses serviteurs, les ministres, les anges, les prêtres, que sais-je, au baptême, si son vêtement, le vêtement qu'il nous a donné, est bien propre et bien conservé, et si notre lampe est allumée. C'est pour cela qu'au baptisé, au nouveau baptisé, on remet un vêtement blanc, et on remet aussi un cierge allumé. Et vous vous souvenez, Mais très chers frères, ce que nous disons plutôt ce que le prêtre dit, eh bien, il dit gardez ce cierge allumé, gardez ce vêtement blanc, gardez ce cierge allumé pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. À tout moment, nous devons pouvoir être trouvés revêtus d'un vêtement, du vêtement blanc et le cierge allumé. Nous ne devons pas être trouvés maculés de taches avec un cierge qui est brisé, un cierge qui est éteint et qui a roulé le long de du banc où nous sommes affalés pour dormir. Vous voyez, mes très chers frères, les maximes de l'Évangile sont le canon de la beauté que Dieu veut trouver en nous et qu'il recherchera en nous au dernier jour. Il y a là de quoi évidemment trembler, puisque nous savons qu'au dernier jour, le temps sera arrêté, puisque nous serons déjà dans en quelque sorte dans les prodromes de l'éternité, et qu'il ne sera plus, il n'y aura plus moyen de faire pénitence, il n'y aura plus moyen de laver son vêtement, il n'y aura plus moyen de trouver de l'huile pour rallumer et réactiver sa lampe. La beauté que Dieu veut trouver en nous n'est autre que la beauté de son Fils, et la beauté de son Fils, nous ne la trouvons que par la méditation, la fréquentation de l'Écriture sainte, qui nous renvoie à ce que nous devons être, et qui nous manifeste qui nous manifeste ce que nous sommes malheureusement par la nature et par l'ingratitude, et elle nous incite aussi à changer de voie. Il faut donc, nous disent les auteurs, s'étudier sérieusement dans le miroir de l'Écriture sainte pour connaître nos défauts et pour y remédier. Il ne s'agit pas simplement de lire l'histoire de notre Seigneur dans l'Écriture sainte et de dire « Ah ben oui, ben c'est notre Seigneur, et puis moi je ne suis qu'un pauvre pécheur, je ne demande, comme je l'ai entendu bien souvent, qu'un strapontin au ciel. Celui qui vise le strapontin ira en enfer. Celui qui vise une demeure glorieuse aura peut-être un strapontin dans le ciel. » Vous voyez, il faut nous étudier sérieusement dans le miroir de la parole de Dieu, et c'est pour cela qu'il nous faut fréquenter la parole de Dieu. Il nous faut plus fréquenter la parole de Dieu que les bons livres de philosophie, les bons livres, que sais-je, même de théologie. Je ne dis pas qu'il faut les exclure, au contraire, mais, enfin, ça dépend de l'état, évidemment, de notre état, mais il faut que nous nous abreuvions à la source d'eau vive, qu'est la parole de Dieu, et que nul ne dise il nous faut des explications. C'est vrai qu'il nous faut des explications, que nul n'ait la témérité de donner ses propres explications, mais que nul ne dise si la parole de Dieu est trop obscure, il nous faut des choses décantées. En réalité, la parole de Dieu est moins obscure que terrifiante. Lorsque nous lisons un livre qui nous plaît, nous pouvons être certains que ce livre, d'une certaine manière, nous flatte et va dans notre sens. Alors, nous allons dire bien sûr que non, parce que nous y trouvons des exhortations, etc., à la vertu, bien sûr, mais si le livre est bon, c'est qu'il tire sa substance de l'Écriture. Donc, il faut revenir à l'Écriture. Il faut méditer l'Écriture. Il faut méditer l'Écriture dans un esprit de foi, dans un esprit d'enfance, comme disent les auteurs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la scruter d'une façon curieuse, il faut la scruter comme on va à table pour manger ce dont nous avons besoin. Il nous faut fréquenter la parole de Dieu régulièrement et la méditer, de telle sorte que quand bien même nous ne la comprendrions pas, et ce n'est pas un problème de ne pas la comprendre, nous la fréquenterions, et quand bien même nous n'en retiendrions pas grand-chose, à cause de l'obscurité de certains de ces passages, nous serions comme illuminés par elle. Car l'obscurité de l'Écriture est une lumière, et beaucoup plus que la lumière que l'on peut trouver dans les livres, surtout les livres récents, qui finalement nous éclairent, mais pour nous perdre, nous donne une fausse lumière qui nous emmène dans des voies qui sont des voies trompeuses et fallacieuses. C'est pour cela qu'il y a certaines erreurs que l'on fait lorsqu'on est bien disposé et que l'on veut mieux connaître sa religion. Une erreur que j'ai relevée, c'est que l'étude de la religion, dans un but uniquement apologétique, nous fait souvent ignorer nos propres devoirs vis-à-vis de Dieu. Il y a plusieurs façons d'étudier sa religion. Alors déjà, il y a une façon de mépriser sa religion, de ne pas s'y intéresser, évidemment, mais ça, je pense, mes très chers frères, que vous n'êtes pas concerné par cela. Maintenant, il y a une autre façon de s'intéresser à notre religion, c'est de faire des provisions d'arguments, la chose n'est pas mauvaise en soi, mais de faire des provisions d'arguments pour convaincre. Alors, c'est une bonne chose que de convaincre, mais il faut faire attention. Il ne faut pas être un marchand de nourriture qui meurt de faim. Il ne faut pas être un marchand d'eau, si j'ose dire, qui meurt de soif. Il nous faut plutôt accorder, par rapport à notre fréquentation de l'Écriture, il nous faut accorder à l'apologétique un temps que nous prendrions sur nos loisirs, en quelque sorte, et concentrer tout le reste de notre temps, de notre temps de travail, de labeur, pour nous sanctifier et nous renseigner sur nos devoirs vis-à-vis de Dieu. Vous voyez, il y a une façon d'étudier la religion à l'usage du prochain, qui finalement, lorsque ce n'est pas simplement l'orgueil qui nous fait vouloir être un grand missionnaire et convertir plein de gens, ce qui est vraiment une attitude très puérile et vraiment assez odieuse, mais qui nous fait vouloir finalement comprendre la religion pour l'expliquer afin que nous puissions convertir des gens qui étudieront la religion pour pouvoir l'expliquer et convertir. Bien sûr qu'il faut convertir les gens, si Dieu veut. Bien sûr qu'il faut parler, à ceux qui se présentent à nous afin que nous rendions compte de l'espérance qui est en nous, comme dit l'Écriture. Bien sûr qu'il le faut. Chacun selon son état, selon ses moyens. Bien entendu, c'est vrai, il le faut. Mais nous ne pouvons... La bouche parle de l'abondance du cœur. Nous ne pouvons parler réellement de la religion que dans la mesure où nous la mettons en pratique. Et non pas simplement où nous la connaissons. Combien de gens sont capables de vous régurgiter le traité de saint Thomas sur les vertus et qui ne sont pas vertueux du tout? Combien de gens sont capables de vous parler de la charité et qui ne sont pas charitables? Mais c'est très rare parce que la plupart du temps, tout le monde méprise la charité. Combien de gens sont capables de vous faire l'apologie de la religion qui sont des rebelles à cette religion? Vous voyez, parce que dans le désir de prêcher, évidemment, entre guillemets, la religion à ceux qui se perdent, eh bien, il y a deux possibilités, il y a deux tentations qui s'offrent. Ou bien, la tentation de minimiser l'évangile pour y attirer les mondains. C'est-à-dire que nous n'allons pas tellement parler de mortification, nous n'allons pas tellement, et d'une certaine manière, c'est peut-être pas à nous forcément d'en parler sous cet angle-là, mais nous n'allons pas dire que la religion chrétienne est de toutes les religions celle qui s'oppose le plus à la nature, celle qui fustige le plus la nature, celle qui ne croit absolument pas en l'homme. Alors évidemment, si nous le disons comme cela, il nous semble, Dieu seul sait si ça va être la réalité, mais il nous semble que nous n'attirerons personne à l'évangile. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser plutôt des arguments qui sont plutôt attirants, en disant, regardez, la religion catholique et le système humanitaire de la France, si tous les catholiques, tous les chrétiens, tous les Français revenaient à leur religion, ils seraient dans le bonheur, etc. Si c'était vrai, ça se saurait, ça se serait su. Ce n'est pas cela. Prêcher l'évangile, mes très chers frères, ça c'est faire de la publicité mensongère. Il n'y a personne de plus malheureux du point de vue humain que celui qui devient chrétien. Parce que c'est quelqu'un qui est appelé à être crucifié chaque jour, c'est quelqu'un qui est appelé à renoncer à soi-même, c'est quelqu'un qui est appelé non seulement à renoncer au péché, mais même à mitiger l'usage légitime qu'il fait des choses du monde, des choses légitimes que Dieu lui permet d'user dans le monde. C'est quelqu'un qui est appelé par le Sauveur à se charger de sa croix et à haïr son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, etc. pour l'amour de lui. C'est quelqu'un qui est appelé à souffrir pour l'Évangile. Évidemment, si nous avons la religion de Chesterton, qui est la religion des grandes éclats de rire, du vin et de la fumée, évidemment, nous allons peut-être être plus attirants. Mais en même temps, que demande le monde? Il l'a déjà, tout cela. Vous voyez, il ne l'a pas dans le sens chrétien. Et malheureusement, il l'a dans un sens qui est beaucoup plus détendu que le sens chrétien. Vous voyez, personne ne prendra jamais le chrétien pour un bon vivant, quelque chestertonien qu'il soit. Donc vous voyez, il y a dans le fait d'étudier la religion dans le seul but de l'apologétique, quelque chose de dangereux dans le sens où on aura plutôt tendance à minimiser les exigences du christianisme et les maximes du Christ, et on pensera que moins on est intégriste sur la morale et sur la doctrine, et sur la vie, sur la sèse, plus eh bien, on a de chances de convaincre les gens. Vous voyez, étudions la religion pour nous-mêmes, afin de croître dans la connaissance de notre faiblesse, la connaissance de nos imperfections, la connaissance de ce qui nous manque encore pour atteindre la stature parfaite du Christ. Et puis il y a une deuxième sorte de tentation, lorsqu'on étudie la religion uniquement dans un but apologétique, c'est une tentation qui est totalement opposée, alors là, parce qu'il y en a pour tous les goûts, vraiment, et pour tous les tempéraments, c'est la tentation de bien connaître la religion afin de condamner les mondains, bien que en réalité, ou plutôt afin de mieux se cacher à soi-même que l'on ne, veut, on ne vaut pas mieux qu'eux. Vous voyez combien il y a de gens, enfin ils sont peut-être moins nombreux, mais il y a des gens qui connaissent très bien la religion, la religion qui est la leur, et qui finalement crachent au visage des mondains en disant « Ah, ben voilà, telle femme indécente, on dirait une... » etc. Ou tel homme qui est là, on dirait « Ah, on dirait une salle de... » À quoi bon, mes très chers frères, connaître la religion si c'est pour insulter à ces gens qui sont dans un état qui était le nôtre avant d'avoir reçu la grâce et qui serait le nôtre si Dieu nous retirait sa grâce? Vous voyez, il y a des gens qui étudient la religion pour mieux critiquer leurs prochains, pour mieux insulter tous ceux qui sont dans les chapelles et pour mieux les scruter. Et à tel point que je disais encore récemment qu'il suffit de regarder tous ces gens qui ne communient pas pour s'assurer qu'ils sont dans un état de péché mortel. Voilà comment utiliser la religion à contresens. Si quelqu'un ne communie pas, ce n'est pas forcément parce qu'il est dans un état de péché mortel, c'est peut-être pour des raisons qui vous échappent, vous mondains, crypto-mondains, enflés de sa propre science et prêts à maudire son frère alors qu'il est lui-même haïssable par Dieu. Celui qui parle, celui qui maudit. Donc voyez, mes très chers frères, il y en a pour tous les tempéraments. Si nous étudions la religion uniquement dans un but apologétique, nous risquons de passer, et même c'est presque une certitude, nous allons passer complètement à côté de la connaissance de nos propres devoirs. Parce que quand on fait l'apologiste, et surtout de la première façon, mais la deuxième façon aussi, eh bien il faut une certaine fierté, un certain sens de l'orgueil, en quelque sorte, de telle sorte que nous puissions aller et puis finalement faire notre baratin auprès des gens pour les convaincre que la religion que nous avons choisie est la meilleure, puisque celle que vous présentez, vous avez la même à la maison, évidemment. Donc voyez, mes très chers frères, nous devons fréquenter l'Écriture sainte. Nous devons fréquenter les bons commentaires de l'Écriture sainte pour bien comprendre ce que nous enseigne l'Écriture sainte. Mais nous devons fréquenter l'Écriture sainte comme un miroir qui nous révèle combien nous sommes encore hideux aux yeux de notre Père céleste. Parce que nous ne ressemblons pas encore, et pas encore assez, à notre divin Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Quiconque, nous dit ce même Seigneur, quiconque entend mes paroles et pratique et les pratique, est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la pierre. Il est lui-même la pierre, il est la pierre angulaire, il est la pierre dont saint Pierre tire son nom. Il est la pierre doctrinale, il est l'homme-Dieu, qui nous apporte le salut, qui nous donne le salut, qui est la source de salut, il est le grand réparateur, sans lequel nul ne peut plaire à Dieu, et nul ne peut parvenir au Père. Donc voyez, mes très chers frères, l'ingrat se séduit lui-même par ses faux raisonnements, comme nous l'avons dit, c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, il va vouloir fréquenter la parole de Dieu, mais pas pour lui-même, pas pour s'y voir comme dans un miroir qui lui montre toute sa hideur spirituelle, mais pour les autres à usage. Encore une fois, ce sont des usages qui ne sont pas forcément illégitimes en soi, mais ce sont des usages qui sont inutiles pour nous. La parole de Dieu est un miroir, et celui qui se voit dans ce miroir et qui s'en va et oublie aussitôt comme il était, celui-là a construit sa maison, c'est-à-dire sa vie chrétienne, sur le sable. Il suffit que vienne un orage pour qu'on voit ce que vaut sa religion. Notre Seigneur Jésus-Christ dit dans l'Évangile, en vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Comment profiter de la parole de Dieu? Il faut donc le demander à Dieu. Seigneur mon Dieu, donnez-moi de pouvoir tirer profit de la parole de l'Écriture sainte, qui est mon miroir, le miroir dans lequel je contemple tout ce qui me manque par rapport à la ressemblance de votre Fils qui doit être la mienne en tant que baptisé. Comment profiter, tirer profit de la parole de Dieu? On aurait beau vouloir, mes très chers frères, se sanctifier, on se tromperait encore si l'on méconnaissait que notre Seigneur Jésus-Christ est notre unique médiateur. Notre Seigneur Jésus-Christ est le médiateur duquel tous les médiateurs secondaires tirent leur puissance. Si nous nous tournons vers tel ou tel saint, afin qu'il intercède pour nous, si nous nous tournons vers la Très Sainte Vierge Marie, qui est la reine des saints, et pour qu'elle intercède pour nous, ils ne peuvent rien pour nous s'ils ne passent pas eux-mêmes par notre Seigneur Jésus-Christ, dont ils sont comme des polarisations, si j'ose dire, même s'ils existent en eux-mêmes, évidemment, mais ils ne tiennent leur pouvoir d'intercession que de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons faire notre petite tambouille spirituelle avec nos saints patrons, les saints que nous aimons bien, je ne sais pas moi, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Louis, Saint Ignace, que sais-je, et que nous lisons par ailleurs des choses qui délivrent, des bons livres qui nous permettent de mieux connaître notre religion, pour mieux combattre, etc. Et puis qu'il nous semble que toute cette petite soupe va faire que nous allons plaire à Dieu, nous nous trompons complètement. Écoutez ce que dit un auteur. C'est le premier défaut de la foi des chrétiens que de ne pas connaître assez Jésus-Christ et ne pas savoir qu'il est notre véritable trésor et qu'en le possédant seul, on possède tout. Que nous enseigne l'Écriture sainte? L'Écriture sainte nous enseigne qu'il n'y a d'autre salut, il n'y a pas d'autre salut qui a été donné sous le ciel que celui que notre Seigneur Jésus-Christ nous a obtenu. Qu'il n'y a pas d'autre voie qui nous mène au Père, qu'il n'y a pas d'autre moyen de réconciliation que son sang, qu'il n'y a pas d'autre source de grâce que sa personne divino-humaine. Quand bien même on serait rempli de grâce, nous dit un auteur, on les perdrait rapidement si l'on ne s'appuyait pas sur notre Seigneur Jésus-Christ pour persévérer. Nous avons reçu des grâces, et vous avez reçu des grâces, mes très chers frères, et il vous semble que vous avez une sorte de capital de grâce, n'oubliez pas notre Seigneur. Sinon, vous vous apercevrez vite que ces grâces n'en sont peut-être pas, et ce ne sont peut-être que des dons de la nature. Et comme nous avons vu hier, la dernière fois, dimanche dernier, si vous vous souvenez, je l'espère, les dons de la nature sont des choses qui viennent de Dieu, mais elles ne sont utiles que dans la mesure où nous en usons que pour Dieu, par la charité. Sinon, elles ne servent qu'à nous perdre. Et plus grands sont ces dons, plus périlleux est notre situation, puisque nous risquons d'être fascinés par les dons que la nature nous a donnés, donc nous allons nous admirer nous-mêmes, et nous allons oublier que sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Il est notre seul et unique médiateur auprès du Père. C'est lui qui est la source de toutes les autres médiations qui ne sont que des médiations en lui-même. C'est lui qui donne sa puissance à la Très Sainte Vierge Marie. C'est lui qui donne leur puissance aux saints, parce qu'il est le seul saint, tout solus sanctus, tout solus dominus, notre Seigneur Jésus-Christ. Lui seul est le saint de Dieu. Quand bien même on serait rempli de grâce, on les perdrait rapidement si l'on ne s'appuyait pas sur notre Seigneur Jésus-Christ pour persévérer. Il est notre médiateur unique. Demander à Dieu quelque chose en oubliant notre Seigneur Jésus-Christ, c'est s'exposer non seulement à un refus, mais à la colère du Dieu saint. Pourquoi ? Parce que demander quelque chose autrement qu'au nom de notre Seigneur, c'est finalement faire un acte de témérité. Nous sommes en nous-mêmes de pauvres pécheurs, c'est pour cela que nous disons constamment à la Sainte Vierge, priez pour nous, pauvres pécheurs. Nous sommes de pauvres pécheurs, nous sortons de la forteresse qu'est le Christ, et nous demandons quelque chose à Dieu en lui disant, mon Dieu, j'aimerais ceci, cela, j'aimerais être plus saint, j'aimerais être un saint, j'aimerais avoir beaucoup d'argent pour pouvoir l'investir dans votre service, j'aimerais pouvoir faire des émissions, que sais-je, et, ou d'autres choses, hein, d'autres choses qui ne relèvent pas de la militance, mais qui relèvent de la vie chrétienne désordonnée, tout simplement, en soi, parce qu'on peut tout à fait désordonner sans être militant, ça c'est certain. Eh bien, il se trouve, mes très chers frères, que non seulement Dieu ne nous accorderait rien, mais Dieu serait en colère contre nous. Dieu n'est que colère contre ceux qui sont en dehors de son Fils. Dieu est amour parce qu'il aime infiniment son Fils. Mais en dehors de cet amour, Dieu n'est que colère pour les créatures qui se trouvent en dehors de son Fils. Alors vous allez dire, mais comment est-ce que ce Dieu qui est amour peut être en même temps colère? On dirait qu'il a un côté gentil et un côté méchant. Ce n'est pas lui qui a un côté gentil et un côté méchant, c'est nous qui sommes ou bien cachés dans le Christ, transformés en lui par la grâce et divinisés en lui, ou alors c'est nous qui sommes méchants parce que téméraires en dehors du Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu fournaise ardente de charité, auquel nous participons, fournaise ardente qui devient l'enfer si nous y participons par le Christ, enfer si nous n'y participons simplement par la nature. C'est le même feu peut faire rôtir un bon poulet bien, bien craquant et délicieux pour dimanche, ou alors peut servir à torturer quelqu'un. C'est le même feu. On n'a même pas besoin d'avoir un feu d'une intensité supérieure. Un feu peut nous éclairer, une bougie peut éclairer une maison et mettre à profit ainsi une certaine partie de la nuit pour méditer la parole de Dieu. Mais la même bougie, si vous le rapprochez d'un rideau, elle va mettre le feu à la maison. C'est pas que la bougie a un côté méchant et un côté gentil. C'est l'usage que nous en faisons, c'est notre rapport à la bougie, si j'ose dire, ou au feu. C'est la même chose par rapport à Dieu. Si nous abordons Dieu en dehors du médiateur unique qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons nous confronter à cette colonne de sainteté, ce feu ardent, ce brasier ardent, ce feu dévorant, comme dit l'Écriture sainte, qui va se manifester colère pour nous. Il va nous faire fondre comme la cire, comme dit le psaume, et il va nous faire brûler, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir de la mort éternelle. Maintenant, dans le Christ, notre unique médiateur, tout ceci est en quelque sorte suspendu, parce que dans le Christ, nous bénéficions de l'amour infini du Père pour le Fils, et l'amour infini du Fils pour le Père est le nôtre. Et il est véritablement le nôtre, de telle sorte que aimer Dieu le Père par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est s'exposer à être aimé du Père presque indépendamment de notre Seigneur Jésus-Christ, pour reprendre des paroles très mystérieuses et très glorieuses, et qu'il est très difficile de comprendre lorsqu'on est impur, de notre Seigneur dans l'Évangile. Il dit, je ne dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. C'est-à-dire, attention, notre Seigneur ne dit pas à un certain moment, vous pourrez demander vous-même des choses au Père sans passer par moi. C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous serez tellement moi-même, que le Père vous aimera comme moi-même, parce que vous ne serez pas différent de moi-même. Voilà ce que cela signifie. Dans le verset de l'Alléluia, il est dit ceci, « Bénissez le peuple, le Seigneur notre Dieu, faites entendre l'écho de sa louange. C'est lui qui maintient en vie mon âme et qui ne laisse pas broncher mes pieds. Béni soit le Seigneur qui n'a pas écarté ma prière, ni éloigné sa miséricorde de moi. Alléluia. » C'est le chant de triomphe, le chant de gratitude du Messie, bien sûr, par rapport à son Père, qui l'a sauvé de toute détresse. Mais en lui, en notre médiateur, ce sont nos paroles, ce sont des paroles de l'homme reconnaissant, du chrétien reconnaissant, du régénéré reconnaissant. Faites entendre l'écho de sa louange, c'est lui qui maintient en vie mon âme. Écoutez comme c'est beau dans l'original. « Qui posuit animam meam ad vitam, et non dedit comoveri pedes meos. » C'est lui qui a posé ma vie, qui a posé mon âme pour la vie, et qui n'a pas donné mes pieds pour être ébranlé. Alors je voulais dire, c'est de l'hébreu. C'est la parole de Dieu, mes très chers frères. Dieu nous aime dans le Christ d'une telle manière qu'il donne notre vie, qu'il donne notre âme pour la vie, et qu'il ne permet pas, qu'il ne donne pas nos pieds pour être ébranlés. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que notre âme est en état de mort et en état de dégénérescence et que nos pieds y ont beau courir sur une voie qui nous paraît bonne, c'est pour broncher, c'est pour tomber, c'est pour nous tordre les chevilles dans les ornières de notre amour propre et de notre volonté propre, si Dieu ne nous avait pas maintenus, ne nous maintenait pas dans le Christ. Écoutez la parole de Dieu et mettez-la en pratique. Il faut écouter la parole de Dieu et être un facteur, un mettant en pratique la parole de Dieu. C'est en notre Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons aller au Père. C'est en cela que consiste le salut, aller au Père céleste. Demander au nom de notre Seigneur Jésus-Christ exige donc que nous mettions en pratique sa parole. Car bien sûr, il y a des chrétiens qui demandent des choses à Dieu sans le faire au nom de notre Seigneur. Évidemment, il se confronte en quelque sorte à cette colonne de feu de feu dévorant qu'est notre Dieu. Mais il y a des chrétiens qui demandent des choses au Père céleste au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, mais qui ne mettent pas en pratique sa parole, de telle sorte qu'ils sont dans une situation encore pire. Lorsque nous venons avec notre nature face à Dieu en dehors du Christ, Dieu ne nous reçoit pas. Mais lorsque nous venons avec les oripeaux du Christ sur nous et que nous avons profané en les souillant de toutes sortes de tâches, Dieu est encore plus en colère. Dieu est en colère contre ceux qui sont tout nus, si j'ose dire, c'est-à-dire qui sont simplement les enfants d'Adam, mais Dieu est encore plus en colère contre ceux qui font profession de christianisme et qui ne vivent pas des maximes de l'Évangile, qui ne vivent pas de la foi au Fils éternel de Dieu. Et c'est pour cela que nous comprenons que le torrent l'orage et les torrents qui se jettent contre la maison qui n'est pas bâtie sur le roc, ce n'est autre que Dieu au jour de sa visite. C'est Dieu à l'heure de notre mort, lorsque toutes les illusions se dissipent et que nous nous trouvons finalement avoir fait tout au long de notre vie notre volonté propre. Lorsque nous nous trouvons à la fin de notre vie comme ayant adoré avec passion un Dieu que nous découvrons aujourd'hui n'être que notre moi. Pourquoi ? Parce que nous aurons fait toutes ces volontés, quoi qu'il nous en aura coûté. Il y a des gens qui consument leur vie, toute leur force, à lutter pour Dieu, alors que Dieu ne leur a rien demandé. Eh bien, ces gens-là luttent pour eux-mêmes. Ils se prêchent eux-mêmes, quand bien même ils s'appelleraient Dieu et Jésus-Christ, ils se prêchent eux-mêmes, et au dernier jour de leur vie, mes très chers frères, que Dieu les garde et qu'il les convertisse et qu'il nous sauve tous, mais au dernier jour de la vie, le torrent arrivera, qui ne laissera subsister que ce qui est enraciné et fondé dans le roc par la charité, notre Seigneur Jésus-Christ. Seul le Christ est capable de supporter la vue de Dieu, la vue du Dieu courroucé qui vient juger les pécheurs. Pourquoi ? Parce qu'il a accompli l'expiation par son sang sur l'autel du calvaire. C'est pour ça que Saint Jacques nous dit « Si quelqu'un croit avoir de la piété et ne met pas un frein à sa langue, mais séduit lui-même son cœur, sa piété est vaine. » Voyez comme la parole de Dieu nous montre des choses sublimes dans le miroir qu'elle est, et en même temps, elle nous montre les infimes détails qui nous permettent de rentrer positivement dans la pratique. Si Saint Jacques avait dit simplement « Ne soyez pas des gens qui écoutent la parole de Dieu en l'oubliant, mais soyez des gens qui la mettent en pratique », nous dirions « Ah voilà, mettre en pratique, factores verbi, etc., tout le jeu de mots sur le verbe divin, etc. » Oui, mais alors comment ? Ah ben ça, gargarisons-nous plutôt de cette doctrine magnifique et terrible. Non, Saint Jacques nous dit « Si quelqu'un croit avoir de la piété, donc croit être un auditeur qui n'est pas oublieux, et ne met pas un frein à sa langue, c'est petit, c'est terre à terre, Saint Jacques !» Vous nous faites passer, comme Saint Paul, décidément, ils se ressemblent tous, ces apôtres, vous nous faites passer de la sublimité de la doctrine au terre-à-terre banal de la pratique. Comment ? Il faut veiller sur ma langue ? Non, mais enfin quand même, il ne faut pas exagérer, il faut bien des fois transgresser un petit peu les règles, les maximes de l'Évangile par rapport à la langue, il faut des fois dire les choses, il faut parfois insulter un peu les gens, mais parce que justement j'ai cru lire dans un bon livre qui dit que le libéralisme est un péché, que en fait dans le fond il faut fustiger de la langue, il faut flageller, il faut torturer les gens avec la langue, de telle sorte que nous puissions mettre en évidence pour leur bien, évidemment, pour leur bien, leur libéralisme, leur péché, et que nous puissions par ce moyen tellement évangélique, les amener à la connaissance de la vérité. Donc vous voyez bien que Saint Jacques, excusez-moi, mais cette histoire de langue, ça c'est bien pour les petites bonnes femmes très pieuses, très humbles. C'est, moi je suis un combattant. Et vous faites la leçon à Saint Jacques, mes très chers frères. Saint Jacques est catégorique. Si vous, quelqu'un croit avoir compris qu'il ne fallait pas écouter simplement la parole de Dieu, mais qu'il fallait la mettre en pratique, qu'il commence à la pratiquer en mettant un frein à sa langue. Sinon, il se séduit lui-même, il séduit lui-même son cœur, et sa piété est vaine. C'est-à-dire, quand bien même je serais capable de retranscrire et de prêcher la parole de Dieu telle que Saint Jacques me l'enseigne, si je ne mettais pas réellement un frein à ma langue, comme on met un mort à un cheval, ou un gouvernail à un bateau, comme dit Saint Jacques ailleurs, eh bien, ma piété est totalement vaine. Je n'ai pas d'autre piété que celle des démons. Il est impossible de se tromper soi-même, grâce à ce critère. C'est-à-dire que si, dans le fond de mon cœur, ou plutôt au fond du confessionnal, je reconnais que je ne mets pas en pratique la parole de Dieu, et que je le déplore, et que je demande à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qu'il en soit autrement, et que je lui demande sa grâce pour qu'il en soit autrement, alors je ne me trompe pas moi-même, je me reconnais pauvre, aveugle et nu, et pécheur. Maintenant, s'il me semble que je suis quand même relativement dispensé du terre-à-terre, de la banalité terre-à-terre des exigences minutieuses dont parle Saint Jacques, alors je me trompe moi-même. La piété pure et sans tache aux yeux de Dieu, dit encore Saint Jacques, Dieu notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se préserver de la corruption de ce monde. Donc les œuvres de miséricorde, corporelles et spirituelles aussi, chacun selon son état, les œuvres de miséricorde, réellement, et quand on dit visiter les œuvres et les orphelins, c'est pas appuyer sur le bouton PayPal du militant que j'aime le mieux pour lui faire un petit don pendant le chat, hein, parce que vous voyez, je connais ces choses. Donc, pas du tout. c'est visiter, c'est véritablement opérer les œuvres de, pour l'amour de Dieu, les œuvres de les œuvres prévues par la loi de Dieu. Et c'est se préserver de la corruption du monde. Se préserver de la, des souillures du monde, qu'est-ce que c'est? C'est être in Christo. Nul ne peut être un factor verbi, un pratiquant de la parole, s'il ne se préserve pas de la corruption de ce monde, avec le reste bien entendu. Mais il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on est généreux, parce qu'on fait des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle, et que par ailleurs on est un petit peu mondain, on se laisse aller à des telles ou telles mondanités, parce qu'il faut être équilibré, saint Thomas, etc. Bon, attention, notre piété est vaine. Ne pas se préserver de la corruption de ce monde. Alors vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut être une sorte de une sorte de puritain, qui trouve que tout est péché. Mes très chers frères, regardons-nous nous-mêmes et voyons si déjà il n'y a pas une grande quantité de choses qui sont véritablement péchées dans notre vie. Ne nous imaginons pas que nous sommes des saints auxquels on demande d'être encore plus rigoureux. Regardons-nous comme des mondains. Combien de choses qui nous semblent relever d'une saine virilité catholique, la bière à la main, la tequila en bouche, etc., qui ne sont en réalité ce que font tout le monde, ce sont les souillures du monde, c'est la corruption du monde. On n'a pas besoin d'être catholique pour faire ces choses-là. Et si on fait ces choses-là, c'est parce qu'il nous semble que sinon on serait un catholique un peu coincé, un catholique qui serait un petit peu, un peu trop béni oui-oui, enfant du bon Dieu, qui ignore tout du monde. Mes très chers frères, nous ne le sommes, nous ne sommes certainement pas des saints, c'est certain. Et c'est pour cela qu'il nous faut être encore plus rigoureux par rapport à notre vie, par rapport à l'organisation de notre vie, par rapport à notre pratique de la vie chrétienne. Ne nous imaginons pas que nous, parce que nous connaissons bien la religion, parce que nous avons lu tout saint Thomas, et que voilà, et que donc maintenant nous pouvons aussi nous accorder des petites pauses. Comprenons qu'il n'y a que dans la parole de Dieu, pratiquée comme un miroir qui nous révèle la, les turpitudes qui sont les nôtres, que nous pouvons devenir véritablement des gens qui mettent en pratique le Verbe de Dieu. Et que tout le reste, mes très chers frères, tout le reste qui ne consisterait pas dans la préservation de la corruption de ce monde, tout le reste n'est que de la mondanité qui rend vaine notre piété. Mais celui qui considère attentivement la loi parfaite, qui est la loi de la liberté, et qui s'y attache, n'écoutant pas pour oublier, mais passant à l'œuvre, celui-là trouvera son bonheur dans ce qu'il fait. Lire et méditer la parole de Dieu, mes très chers frères, non pas par curiosité, comme nous l'avons dit, ou dans un but de, s'improviser prédicateur, bien sûr, mais lire et méditer la parole de Dieu quotidiennement, afin d'acquérir la forma mentis des enfants de Dieu, voilà comment, voilà en quoi consiste ce fait de considérer attentivement la loi parfaite, qui est la loi de la liberté. Et il y a quelque chose, pour celui qui sait entendre, il y a quelque chose de merveilleux qui est caché au sein même des paroles terribles de saint Jacques. Il dit, celui-là trouvera son bonheur dans ce qu'il fait. Et qu'est-ce que ça signifie? Alors, ça veut dire, ah ben finalement, dans tout ce que je fais, non, non, ce qu'il fait ici, c'est son devoir d'État. C'est pas ce qu'il fait de par sa volonté propre. Enfin, sinon l'Écriture ne veut plus rien dire. Il trouvera son bonheur dans ce qu'il fait. Vous voulez être heureux? Vous êtes prêtre, vous voulez être heureux, vous êtes père de famille, vous voulez être heureux, vous êtes mère de famille, vous voulez être heureux, vous êtes dans tel ou tel état licite, vous voulez être heureux, pratiquez la parole de Dieu, mes très chers frères, comme un miroir qui vous révèle toutes vos imperfections, comme un miroir qui vous révèle le canon de beauté christique que Dieu veut trouver en vous au dernier jour et dès aujourd'hui. Vous voulez être heureux, alors vous allez dire... Moi, je ne demande pas le bonheur, je demande simplement à servir Dieu. Alors, je vous en prie, mes très chers frères, ne faites pas les quiétistes là qui veulent toujours en faire plus que tout le monde. Non, non, non. Vous voulez être heureux, c'est-à-dire vous voulez avoir de la réussite. Vous êtes parents, vous voulez que vos enfants continuent dans la voie de la religion et aient la vie éternelle. Vous voulez être heureux de cette façon-là. Considérez-vous dans le miroir de la parole de Dieu. Vous êtes prêtre, vous voulez avoir un ministère fructueux, si Dieu le permet, considérez-vous dans le miroir de la parole de Dieu. Être heureux ici, c'est pas être mondain. Tout d'un coup, on est plus catholique que saint Jacques et on dit non, le bonheur mondain, non merci. Le bonheur, c'est-à-dire la réussite dans ce que Dieu attend de nous, la réussite dans nos bonnes œuvres. Des bonnes œuvres qui soient vraiment des bonnes œuvres et qui ne soient pas simplement des vertus naturelles que nous développons pour l'amour de nous-mêmes. Des bonnes œuvres qui soient véritablement les bonnes œuvres, celles même que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Non pas celles qui nous font gagner le salut, comme si Dieu ne nous avait pas aimés avant que nous l'aimions, mais celles qui font que nous manifestons que nous sommes sur la voie du salut. Celles par lesquelles nous affermissons, comme dit saint Paul, notre élection. C'est-à-dire que nous rendons plausible le fait que Dieu nous a véritablement aimés en Jésus-Christ de toute éternité et qu'il nous veut dans son paradis céleste pour toujours. Dans l'oraison, qui est une magnifique oraison, eh bien, nous disons ceci à Dieu, ou l'Église nous fait dire ceci à Dieu. Ô Dieu, de qui procèdent tous les biens? C'est une référence à l'épître de dimanche dernier. Ô Dieu, de qui procèdent tous les biens? Exaucez nos supplications, afin que, inspirez nos pensées pour nous porter vers ce qui est juste et bien, dirigez nos volontés pour nous les faire accomplir par Jésus-Christ, etc. C'est le contraire, cette oraison est le contraire de la séduction de notre propre cœur. Vous voulez échapper à la séduction de votre propre cœur par vous-même, mais très cher frère, priez de tout cœur cette oraison. Nous demandons à Dieu que nous pensions, lui nous inspirant les choses qui sont droites, et que lui nous gouvernant, nous les fassions ces choses qui sont droites. C'est le contraire de la séduction de notre propre cœur. C'est le contraire d'une écoute oisive de la parole de Dieu. C'est le contraire de l'erreur, de la séduction de nous-mêmes par les faux raisonnements. Mes très chers frères, notre Seigneur Jésus-Christ va bientôt retourner au ciel. C'est bientôt l'ascension. Il va nous donner son Saint-Esprit quelques jours plus tard. Écoutons-le dès maintenant en nous souvenant de sa parole. Et mettons un frein à notre langue, mettons un frein à l'amour que nous avons pour la mondanité, mettons un frein à la paresse que nous avons pour faire les œuvres de miséricorde. Mes très chers frères, mettons un frein à tout cela afin que notre piété ne soit pas vaine et que nos oreilles ne soient pas les juges que Dieu citera, ou plutôt les témoins que Dieu jugera, convoquera au dernier jour, pour qu'elle nous convainque d'avoir entendu des choses, d'avoir écouté des choses et de ne pas les avoir mises en pratique. Que Dieu nous donne la force, mes très chers frères, de vaincre cette séduction de nous-mêmes par une écoute, une fréquentation et une écoute attentive du miroir de la parole de Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.